Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Protégez-vous et pivot. Au programme, comprendre les acouphènes et mieux vivre avec. Et au collège Maisonneuve, l'administration met en demeure des étudiants et étudiantes qui la critiquent. Bonne écoute.
Comprendre les acouphènes et mieux vivre avec. Un texte écrit par Martine Le Tarte, daté du 8 octobre 2021 et tiré de la revue Protégez-vous. Vous souffrez d'acouphènes? Le bruit fera toujours partie de votre quotidien. Cela dit, il existe des stratégies pour maintenir votre qualité de vie. Comment prévenir les acouphènes? Les sons de l'acouphène? Qui et quand consulter? Les problèmes adjacents à l'acouphène, la thérapie sonore. Simon Lévesque, sonorisateur de 32 ans, a réalisé qu'il souffrait d'acouphènes quand il a demandé à ses collègues « Est-ce que vous entendez quelque chose ?» et que ces derniers ont répondu par la négative. Le jeune homme, alors âgé de 19 ans, entendait un sifflement aigu même s'il se trouvait dans un studio insonorisé. Le son était dans sa tête. L'acouphène est un peu comme la douleur. On sait qu'elle existe, mais on ne peut pas la prouver parce que c'est un phénomène subjectif qui repose sur la description de la personne, explique Sylvie Hébert, chercheuse en audiologie à l'Université de Montréal et auteur du livre « Acouphènes, les reconnaître et les oublier », édition très carrée. La principale cause de ce phénomène sensoriel est une perte d'audition. Une hypothèse parmi les plus valorisées est que le cerveau réagirait à la perte auditive en augmentant la réponse du système auditif, ce qui créerait cette perception du bruit. Mais cette affection peut être le symptôme de nombreux autres problèmes, comme un bouchon de cérumen, une otite, une artère bloquée, une tumeur ou un problème de joint entre le crâne et la mâchoire. L'acouphène peut être constant ou intermittent, par exemple en se manifestant à la suite d'un spectacle, pendant quelques heures ou quelques jours. Ces acouphènes sont provoqués par l'exposition au bruit. C'est un signal d'alarme, parce que du dommage est peut-être en train de se faire dans l'oreille, indique Sylvie Hébert. L'experte ajoute qu'il est possible que ces acouphènes ne partent plus après une ou plusieurs soirées hautes en décibels. Selon une étude de Statistique Canada publiée en 2019, 37% des Canadiens souffraient d'acouphènes en 2018 et les jeunes adultes de 19 à 29 ans étaient les plus susceptibles d'en avoir eu, 46%. C'est inquiétant que près de la moitié des jeunes adultes aient expérimenté un acouphène en 2018 alors qu'il n'y a pas encore de traitement pour le faire disparaître, souligne la chercheuse. Vous êtes cependant en mesure de prendre des précautions pour éviter de développer des acouphènes et si vous en avez, des stratégies existent pour améliorer votre qualité de vie. Comment prévenir les acouphènes? Si Simon Lévesque souffre d'acouphènes, c'est sans doute parce qu'il a été dur avec ses oreilles à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Il écoutait beaucoup de musique à fort volume et sortait souvent dans les bars. Les gens me disaient d'être prudent, mais jeune, on se sent invincible. J'ai commencé à faire attention à mes oreilles après l'arrivée des acouphènes, dit-il. Écouter de la musique trop forte, trop longtemps, c'est précisément le comportement à changer si vous voulez éviter les acouphènes, d'après Sylvie Hébert de l'Université de Montréal. Selon l'étude de Statistique Canada mentionnée plus tôt, les jeunes adultes, soit les personnes les plus touchées par ce trouble de l'audition, étaient aussi, en 2018, les plus susceptibles d'utiliser des écouteurs ou un casque d'écoute à plus haut volume, et ce, un plus grand nombre d'heures par semaine. Des appareils mobiles peuvent néanmoins vous envoyer des notifications si vous dépassez le niveau sonore recommandé sur 7 jours et réduire automatiquement les sons les plus élevés. Pour faire ces réglages sur un iPhone, allez dans Réglages, son et vibrations, sécurité des écouteurs. Certains outils comme la scie à chaîne sont également très bruyants. Et pour éviter d'endommager votre ouïe lorsque vous les utilisez, des bouchons ou des coquilles anti-bruit s'avèrent essentiels. Toutefois, de tels accessoires bloquent les fréquences aiguës et rendent la communication difficile. Les simples bouchons souples ou en plastique se vendent à la pharmacie pour quelques dollars. Les coquilles, quant à elles, sont offertes à partir d'une trentaine de dollars. Et les divers modèles réduisent le bruit à différents niveaux de décibels, D, B, selon votre besoin. Si vous assistez souvent à des concerts ou à des spectacles et que la qualité sonore est importante pour vous, envisagez le port de bouchons filtrés, aussi appelés bouchons de musiciens, que vous trouverez dans les cliniques d'audiologie. Contrairement aux modèles sans filtre, ils ne coupent pas seulement les fréquences aiguës, dont ils ne créent pas de distorsion, vous entendrez toutes les conversations, la musique et les bruits, mais avec moins de décibels, décrit Sylvie Auger, audiologiste et propriétaire de la clinique privée Audiologie Centre-Ouest. Elle précise qu'il existe des modèles universels, se détaillant une quarantaine de dollars environ, qui réduisent le niveau de bruit de 15 décibels. Sont aussi offertes des options sur mesure avec un choix de filtre de 9, 15 ou 25 décibels qui se vendent autour de 300 dollars. L'avantage, c'est que vous pouvez acheter une autre paire de filtres pour une centaine de dollars et les changer au besoin, ajoute-t-elle. Les sons de l'acouphène. Les acouphènes sont fréquents, mais tous les sons n'en sont pas le signe. Entendre un petit « à l'occasion », c'est normal. Tout le monde vit ce phénomène sensoriel sans raison, et ce n'est pas un acouphène, nuance Sylvie Hébert. L'acouphène peut être décrit comme un bourdonnement, un sifflement, une pulsation, une chute d'eau, un cliquetis, un grondement. C'est souvent un son à haute fréquence, donc aigu, surtout chez les jeunes, poursuit l'experte en audiologie. Quand et qui consulter? Si un acouphène apparaît, vous trouverez des réponses à vos questions auprès d'un audiologiste, soit à l'hôpital ou dans une clinique universitaire, publique ou privée. Par exemple, si vous avez un acouphène qui ne disparaît pas quelques jours après l'exposition à de la musique très forte, vous pouvez aller consulter en audiologie pour évaluer les dommages, suggère Sylvie Hébert. L'audiologiste fera un examen complet pour voir s'il est en mesure d'identifier une cause autre que la perte auditive, et si c'est le cas, il vous dirigera vers un spécialiste, otorhinolaryngologiste, cardiologue, oncologue, orthodontiste, physiothérapeute, etc., qui pourra traiter le problème dont l'acouphène est le symptôme. Les problèmes adjacents à l'acouphène. Si l'acouphène est causé par une perte auditive, une raison inconnue ou un problème de santé qui ne peut être traité, il vous faudra alors trouver des stratégies pour mieux vivre avec ce trouble de l'audition. La personne entendra toujours des bruits, alors c'est certain qu'elle doit faire un gros deuil, celui du silence, affirme la chercheuse. L'incertitude liée au développement d'un problème de santé plus ou moins connu peut se révéler stressante. Dans certains cas, aller chercher des réponses au bon endroit suffit à calmer la personne. J'ai déjà vu un patient qui était en détresse parce qu'il pensait que l'acouphène le rendrait sourd et donc il ne pourrait plus entendre ses petits-enfants, raconte Ronald Choquette, professeur en audiologie qui pratique à la clinique universitaire en orthophonie et en audiologie de l'Université de Montréal. Ce spécialiste témoigne qu'il lui a enlevé un poids immense sur les épaules en lui expliquant que l'acouphène n'entraîne pas la surdité. C'est plutôt l'inverse qui peut se produire. Si des pathologies se sont développées avec l'arrivée de l'acouphène, comme la dépression ou l'anxiété, il faut les traiter, signale Sylvie Hébert. On envoie alors le patient vers un médecin ou un psychologue. La thérapie cognitive comportementale est utilisée pour aider une personne à s'adapter à son état. On l'amène à prendre conscience de sa réaction émotionnelle. Vit-elle de la colère ou du découragement? Puis, on regarde pourquoi elle se sent ainsi. Il est possible que ce soit parce que ses bruits contrecarrent ses plans, ou l'empêche d'avoir du plaisir, illustre la psychologue Marie-Josée Rivard, qui travaille dans le domaine de la douleur chronique depuis plus de 20 ans et qui a reçu en thérapie des patients souffrant d'acouphènes. Une fois le sentiment identifié, il faut travailler à diminuer son intensité, sa fréquence et sa durée, et idéalement le transformer. La psychologue indique que refuser la réalité ne fera pas disparaître l'acouphène, mais que cela entraînera plutôt de la détresse psychologique. Les pensées ont des conséquences, fait-elle valoir. Si vous vous levez en vous disant que votre journée sera infernale parce que l'acouphène est fort, c'est différent de si vous vous levez en vous demandant ce que vous ferez pour rendre votre journée moins difficile. On amène donc la personne à reprendre des activités satisfaisantes et on lui présente des techniques de gestion du stress, comme la respiration, pour l'outiller et l'aider à améliorer sa qualité de vie. Par ailleurs, ces techniques sont également susceptibles de vous aider à combattre l'insomnie. En effet, les sons de l'acouphène empêchent certaines personnes de bien dormir. Et si vous ne dormez pas bien, vous devenez plus irritable, alors le sifflement n'aide en rien. Et ça devient un cercle vicieux, observe Ronald Choquette. La thérapie sonore. Un appareil auditif peut atténuer l'acouphène de manière satisfaisante, à supposer que ce dernier soit dû à une perte auditive plus ou moins grande. Si ça n'est pas suffisant, vous pouvez envisager la thérapie sonore, qui consiste à détourner l'attention du cerveau en produisant des bruits autres que ceux de l'acouphène. Et le but est, pour être plus précis, de calmer la réponse du cerveau qui cherche les sons qu'il ne parvient plus à entendre, comme l'explique Sylvie Hébert de l'Université de Montréal. La chercheuse précise toutefois que les preuves de l'efficacité de la thérapie sonore ne sont pas encore très fortes. D'abord parce que les fonds de recherche sont très rares dans le domaine, ensuite parce que les études sont difficiles à mener, mais on pense que ça aide, confirme-t-elle. Normand Chenaille, pour sa part, peut en témoigner. Dans la nuit du 18 juillet 1997, il s'est fait réveiller par un bruit de cigale. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de traces de ces insectes. Après qu'un otorhinolaryngologiste lui eût dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec un acouphène, il s'est débrouillé seul pendant 15 ans. Radio, télévision, il y avait toujours un bruit de fond pour détourner son attention. Puis, après avoir assisté à une rencontre d'Acouphène Québec, l'homme a décidé de consulter un audiologiste. Il s'est ensuite procuré un appareil auditif avec générateur de son. Ça ne règle pas tout, mais ça fait partie des solutions pour gérer les symptômes, affirme-t-il. La solution maison. Si votre acouphène est léger et que vous n'avez pas les moyens de vous procurer les coûteux appareils générateurs de son, envisagez d'écouter de la musique, mais pas trop forte, pour vous distraire en utilisant par exemple votre cellulaire avec des écouteurs. Cette solution n'est toutefois pas toujours bien acceptée dans les milieux de travail. Sinon, Sylvie Auger de la clinique Audiologie Centre-Ouest ajoute qu'il est aussi possible d'employer n'importe quel autre appareil pour produire des sons que vous aimez, comme celui de la pluie, des vagues, etc. Pour la nuit, il existe des oreillers avec des haut-parleurs intégrés et vous pouvez y connecter votre téléphone pour écouter des bruits ou de la musique à très bas volume sans déranger votre conjoint, conseille l'audiologiste. Dans la même veine, on trouve de petits haut-parleurs qu'il y a moyen de placer sous votre oreiller. Les générateurs de son. Les générateurs de son, seuls, non intégrés à un appareil auditif, vendus autour de 2 600 $ la paire, se portent discrètement à l'oreille. Il n'y a pas de danger à emporter, assure Sylvie Auger, mais il vous faut être bien suivi par un audiologiste pour ajuster le volume et vous permettre de bien vous adapter au port de l'appareil. Le bruit généré peut faire fluctuer le volume de l'acouphène ou le faire se promener d'une oreille à une autre, ce qui est bon signe parce que vous êtes en train de reprogrammer la perception au niveau du cerveau. L'appareil auditif avec générateur de son. Si votre acouphène est causé par une perte d'audition et que vous avez donc besoin d'un appareil auditif, vous pouvez opter pour un modèle avec générateur de son intégré. Ces modèles sont vendus par les audioprothésistes et coûtent au moins 4 000 $ la paire. Ils produisent plusieurs types de bruits et l'audiologiste ajuste la fréquence pour reproduire un son semblable à l'acouphène, mais en moins fort. Ainsi, le bruit généré n'empêche pas d'entendre les autres sons, explique la chercheuse Sylvie Hébert. Grâce à une approche centrée sur la personne, qui peut inclure de l'information et des conseils d'un audiologiste, la consultation en psychologie et la thérapie sonore, on arrive à des résultats, résume le professeur en audiologie Ronald Choquette. Pour vous donner une idée précise, on demande aux patients à la première rencontre d'évaluer à quel point leur acouphène est intolérable sur une échelle de 0 à 10. Il est possible que ce soit 8 ou 9, et après le traitement, c'est souvent 2 ou 3. C'était un texte tiré de la revue Protégez-vous, daté du 8 octobre 2021, écrit par Martine Letarte, « Comprendre les acouphènes et mieux vivre avec ».
Au Collège Maisonneuve, l'administration met en demeure des étudiants et étudiantes qui la critiquent. Un texte de Léa Beaulieu-Krachanov, paru le 13 février 2023 dans le magazine Pivot. L'association étudiante a reçu une mise en demeure après avoir dénoncé l'indifférence de l'administration à l'égard du bien-être des élèves. Lors d'une journée porte ouverte au Collège Maisonneuve, l'association étudiante a distribué des tracts dénonçant l'inaction de l'administration à l'égard de nombreux enjeux. Comportement raciste du personnel, manque d'accommodement en santé mentale, climat toxique qui pousserait des employés à démissionner, etc. En guise de réponse, l'administration a fait parvenir aux représentants et représentantes étudiants, étudiantes, une mise en demeure exigeant le retrait et la destruction des documents. L'association y voit une atteinte à ses droits syndicaux. Après avoir longtemps tenté de se faire entendre, sans succès, les membres de la Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de Maisonneuve, SOG et ECOM, en ont eu assez. Ça faisait plusieurs mois que l'association présentait une liste grandissante de griefs au conseil d'administration du cégep du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Lors d'une soirée porte ouverte, tenue le 31 janvier dernier, des membres de la SOGEECOM ont distribué des tracts faisant état de leurs insatisfactions à l'égard d'une administration décrite comme passive, détournée du bien-être des étudiants et même toxique. On y décrit des enjeux d'importance, comme des propos racistes, tenus par certains membres du personnel, la fermeture controversée du café étudiant, le refus d'approuver des annulations de cours et des incomplets pour raisons médicales, ou encore la fermeture aléatoire d'aires communes face auxquelles l'administration semble faire la sourde oreille. Plus généralement, on décrit une atmosphère toxique au sein de l'administration qui serait à l'origine d'un manque important de personnel. On ressentait que, dans notre rôle de syndicat, qui est de défendre les intérêts des membres, on avait besoin d'informer les gens des réalités qui ne sont pas adressées par l'administration, affirme Amélie, une membre du conseil exécutif de la SOGECOM, qui préfère garder l'anonymat en entrevue avec Pivot. La distribution des tracts aux futurs étudiants étudiantes est le moyen qu'a trouvé l'association de se faire entendre et de montrer le vrai visage de l'administration. Dès les premiers dépliants distribués, des membres du personnel administratif auraient défendu aux étudiants et étudiantes de circuler avec des tracts parmi les visiteurs et visiteuses. Un directeur aurait aussi menacé une étudiante en évoquant des recours juridiques. Le 6 février dernier, la SOGEECOM a reçu une mise en demeure signée par une avocate du collège. on y invoque la violation de règlements internes ainsi que la diffusion de propos diffamatoires et préjudiciables à la réputation du collège. On nous accuse d'agir de manière néfaste au bien-être de l'institution, mais le vrai danger, selon nous, c'est l'administration qui ignore perpétuellement les besoins des étudiants. Amélie, membre du conseil exécutif de la SOGEECOM. Poursuivons avec au Collège Maisonneuve, l'administration met en demeure des étudiants étudiantes qui la critiquent. Un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 13 février 2023 dans le magazine Pivot. La direction y intime l'association étudiante de ne plus distribuer ou utiliser les tracts, ainsi que de retirer ceux qui sont affichés entre les murs du collège, y compris dans le local de l'association et même en ligne. Elle demande la destruction des documents encore en la possession de l'association. Elle exige également le respect des règlements qui régissent la diffusion publique et les conditions de vie au collège, sans quoi des sanctions pourraient être appliquées. Enfin, elle demande des excuses de la part de la SOGEECOM qui avait 48 heures pour se plier aux attentes de la direction. Lors d'une assemblée générale tenue le 7 février, l'association a déclaré la mise en demeure illégitime et a choisi de ne pas se plier aux exigences qui y sont formulées par l'administration du collège. Ça s'inscrit dans un pattern de comportement antisyndical qui brime notre liberté d'expression, rétorque la porte-parole de l'association étudiante. Elle rappelle que l'application d'une telle politique empêcherait la SOGEECOM de critiquer l'administration du collège et donc de réaliser son mandat. La distribution de tracts politiques est un moyen d'expression protégé, souligne-t-elle. On nous accuse d'agir de manière néfaste au bien-être de l'institution, mais le vrai danger, selon nous, c'est l'administration qui ignore perpétuellement les besoins des étudiants. Ça s'inscrit dans un pattern de comportement antisyndical qui brime notre liberté d'expression. Amélie. L'administration du collège a refusé de commenter la situation. Elle soutient cependant qu'elle prend tous les moyens pour leur offrir un environnement harmonieux, sécuritaire et stimulant, et se fait un devoir de traiter tous les étudiants de façon équitable, en harmonie avec les politiques et règlements internes du collège. Des griefs négligés. On a vraiment l'impression de faire face à une administration qui démontre un manque de soucis particulier pour le bien-être étudiant, s'inquiète Amélie. L'administration aurait refusé aux étudiants et étudiantes le droit de faire annuler un cours ou d'obtenir un statut incomplet, même lorsqu'une justification médicale est présentée. Elle affirme que des médecins ont parfois tenté de communiquer directement avec la direction, sans succès. L'association critique aussi l'inaction de la direction lors de la fermeture du café étudiant du collège, qui constituait, selon elle, un point de rencontre important pour les étudiants et étudiantes et une source d'accès à de la nourriture abordable sur le campus. Peu de temps après la fermeture, un contrat d'exclusivité aurait été signé avec la cafétéria menant à une hausse des prix. Ça démontre un souci plus axé sur les profits que sur l'offre de produits abordables et d'espaces de vie aux étudiants, s'indigne Amélie. Racisme et manque de transparence. Parmi les enjeux cités par le SOGEECOM, on retrouve des comportements racistes du personnel contre lesquels des plaintes auraient été déposées auprès de l'administration sans l'entremise de l'association étudiante. Ce genre d'incident ne serait pas rare chez le personnel qui travaille actuellement à la cafétéria, selon Amélie. On aurait refusé de servir des étudiants étudiantes qui souhaitaient être servis selon les normes halal et des employés auraient tenu des propos racistes à leur endroit. L'association déplore le manque de transparence quant au statut de ses plaintes et ignore si des mesures disciplinaires ont été mises de l'avant. On a vraiment l'impression de faire face à une administration qui démontre un manque de soucis particuliers pour le bien-être étudiant. Amélie, membre du conseil exécutif de la SOGEECOM. L'administration n'explique pas aux étudiants que c'est le rôle de la SOGEECOM de les défendre, souligne Amélie. Ils traitent ces plaintes à l'interne. On ne se fait pas inclure dans le processus. On ne se fait pas impliquer en tant que syndicat. Un problème de gestion. De manière plus générale, la SOGEECOM dénonce une culture toxique au sein de l'administration qui contribuerait à créer une pénurie de main-d'œuvre parmi le personnel scolaire et de soutien. Une soixantaine de postes seraient actuellement vacants au Collège Maisonneuve. Selon l'association, des employés auraient quitté leur poste au collège afin d'intégrer des emplois semblables avec un salaire comparable dans d'autres institutions. Amélie note qu'il existerait un manque particulièrement flagrant de professionnels qui fournissent des soutiens psychologiques ou de l'aide en adaptation scolaire, par exemple. Le temps d'attente est tellement long que ça peut prendre plusieurs mois avant d'avoir l'autorisation pour des moyens d'adaptation scolaire. Ça fait qu'un étudiant qui est en mi-session n'a toujours pas accès à des moyens d'adaptation auxquels il a pourtant droit. C'était, au Collège Maisonneuve, l'administration met en demeure des étudiants-étudiantes qui la critiquent, un texte de Léa Beaulieu-Kratchanov, paru le 13 février 2023 dans le magazine Pivot.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Serge Hamelin et Gilbert Lepage à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.